franceinter.fr.
Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, on lit chaque année votre état du monde avec Dominique Vidal aux éditions La Découverte et on parle avec vous de cet accord de Lausanne sur le nucléaire iranien qui pourrait marquer un tournant géopolitique. D'abord, au-delà de la propagande, des cris de joie de Téhéran, des multiples contraintes minutieusement détaillées par John Kerry, il vous semble solide cet accord? Il ouvre la voie à un retour de Téhéran dans ce qu'on appelle le concert des nations?
Si on en a une lecture politique plus que géostratégique, et vous avez effectivement bien commencé là-dessus, évidemment, c'est un bon accord, parce que c'est un accord qui vient mettre un terme à une exclusion qui était pernicieuse pour tout le monde, pour l'Iran, pour le camp occidental, pour beaucoup d'États de la région, donc c'est un tournant important. Il ressemble un petit peu à cet accord qui avait permis de mettre fin à la mise à l'index de Cuba il y a quelques mois. Si maintenant on se tourne vers l'aspect technique, là les choses sont beaucoup plus compliquées. Il faut dire d'un simple mot qu'il est extrêmement difficile de parvenir à un bon accord technique sur la question du nucléaire, parce que c'est une question pratiquement insoluble par des moyens techniques.
Pourquoi insoluble ?
Parce que vous avez dans le monde actuellement une vingtaine d'États dits du seuil, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer très vite du nucléaire civil au nucléaire militaire. C'est extrêmement difficile de contrôler ce type de passage et que, bien sûr, il sera toujours facile, en se plaçant sur ce terrain, de trouver des faiblesses à cet accord. Mais l'essentiel n'est pas là, il faut renverser la perspective. Le problème du nucléaire iranien est un problème politique avant d'être un problème géomilitaire ou géostratégique.
Oui, mais alors sur le contenu, on dit souvent que le diable est dans les détails. Les détails, là, sont secrets. Pourquoi cette bataille, d'ailleurs, autour des modalités de l'annonce de l'accord? Les Iraniens ne voulaient pas qu'on dévoile le contenu.
Pour deux raisons. D'abord, une raison de procédure. Il avait toujours été établi que l'accord final serait établi fin juin. Nous sommes, et on le sent bien, seulement qu'en avril actuellement. Et deuxièmement, parce que dans un accord, l'essentiel est de ne faire perdre la face à personne et de laisser à chacun, c'est-à-dire autant à Rouhani en Iran qu'à Obama aux États-Unis, la possibilité de calmer leurs radicaux. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il était important de prendre toutes les précautions nécessaires et de ne pas totalement dévoiler son jeu.
Les Iraniens l'ont interprété, les Iraniens de la rue, si je puis dire, comme la perspective d'une levée prochaine des sanctions. Ils ont raison de se réjouir si vite?
Oui, parce que ces sanctions ont fait mal. Oui, parce que ces sanctions sont humiliantes. Oui, parce qu'il est agréable de constater qu'on met fin à une humiliation dont on est victime. Oui, parce que l'Iran a envie, et vous savez, c'est la variable essentielle derrière tout cela, a envie de devenir, d'être reconnu comme une puissance régionale. Et effectivement, on commence à la considérer. Eh bien, c'est un changement heureux, perçu unanimement comme heureux.
Alors, je précise, parce que vous y faites une discrète allusion, que c'est l'objet de votre dernier livre, Le temps des humiliés, chez Odile Jacob.
J'avais bien raison.
Vous expliquez l'importance des passions dans le jeu diplomatique et notamment l'humiliation de certains États faibles par cette sorte d'oligarchie dominée par les États-Unis. C'est quelque chose de prégnant. Et donc l'Iran, à vos yeux, est en train de quitter le camp des humiliés avec cet accord de Lausanne. C'est important.
Oui, c'est une perversion des relations internationales post-bipolaires. C'est-à-dire, à défaut de faire la guerre, on punit, on exclut, on sanctionne. Ça n'a rien donné nulle part de positif. Ça a créé du ressentiment.
Jamais
nulle part. Il faut bien le dire. Et donc, cela crée du ressentiment, de la tension. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir des résultats positifs, on a des résultats négatifs. Obama en est conscient. C'est quand même une grande révolution. Il faut s'arrêter quelques secondes là-dessus. Ce président des États-Unis qui a changé les États-Unis et la politique étrangère américaine. Le fait de punir, ça vient de l'esprit néoconservateur. Ça vient des profondeurs de l'histoire américaine, de ce messianisme qui le caractérise. Obama a compris que cela ne servait à rien. Il change, et je crois pour le bien du monde.
Alors, il faut parler des perdants de cet accord, ou des perdants apparents, vous nous le direz, Bertrand Badi. D'abord, Benjamin Netanyahou, qui avait fait de l'absence d'accord avec l'Iran l'enjeu principal de sa campagne législative. Est-ce que c'est une posture aujourd'hui, ou est-ce qu'il a raison de crier à la menace sur l'existence d'Israël?
Non, c'est un échec politique pour Benjamin Netanyahou parce qu'il avait justement mis la question sur le terrain politique. Nul ne peut sérieusement considérer qu'une potentielle probable ou improbable bombe iranienne aurait pu menacer l'existence de l'État d'Israël. Imaginez ce que représenterait un conflit atomique au Moyen-Orient. C'est impossible. Rappelez-vous, Jacques Chirac l'avait dit en une phrase, c'est-à-dire, si une chose pareille venait à passer par la tête des dirigeants iraniens, Téhéran serait en une minute supprimé. Donc tout ceci est absurde. Le vrai problème de Benjamin Netanyahou, c'est de réclamer, sans pouvoir le faire explicitement, le monopole, le double monopole sur le Moyen-Orient, le monopole de puissance et le monopole nucléaire, qu'il a effectivement actuellement. Le monopole nucléaire, il risque de le garder d'un certain point de vue encore longtemps, bien que l'Iran ait toujours cette dissuasion, disant « Attention, si vous ne nous aidez pas, si vous ne nous privez pas de vos sanctions, eh bien nous pouvons très vite retourner au programme nucléaire, n'est-ce pas ?» Mais c'est vrai que Benjamin Netanyahou a, à cause de cet accord, perdu ce monopole politique sur le Moyen-Orient.
Deuxième perdant, les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, qui est engagée, on en parlait tout à l'heure dans le journal, dans une guerre aujourd'hui au Yémen contre les chiites.
Oui, alors l'Arabie Saoudite, à la faveur du printemps arabe, a la volonté de devenir le leader du monde arabe, alors que l'Égypte, la Syrie, l'Irak sont considérablement affaiblis. Seuls l'Iran et la Turquie peuvent, c'est-à-dire deux puissances non arabes, disputer ce monopole du leadership. Il est sûr actuellement que la Turquie a beaucoup perdu au Moyen-Orient, que le seul vrai rival, c'est l'Iran, c'est-à-dire, paradoxe des choses, une puissance non arabe qui a la capacité d'être quasiment en position de principale puissance arabe avec beaucoup de guillemets. Alors effectivement, à Riyad, on ne supporte pas cela, et on le voit bien à travers le conflit yéménite notamment, mais aussi en Irak, c'est une défaite politico-diplomatique de l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup Bertrand Badi de nous avoir éclairé ce matin, professeur à l'IEP de Paris, et puis je rappelle votre dernier livre, Le temps des humiliés, chez Odile Jacob.